passion moderniste.
Vive le roi !
Le podcast qui éclaire.
Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé.
L'histoire moderne.
La terre est proche.
La thèse est osée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Passion Moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire on est en gros pour l'Europe occidentale entre les années 1500 et 1800. Le but de ce podcast est vraiment de vous faire découvrir des choses sur l'histoire, même si vous n'y connaissez rien. Épisode 43, Amélie et les ambassadeurs au XVIe siècle, c'est parti.
Il y a des gens que ça intéresse ce...
Personne.
Bon, le XVIe siècle, on en a déjà un petit peu parlé dans Passion Moderniste, mais vous allez voir aujourd'hui, on va s'amuser à traverser les frontières, traverser les pays peut-être, on va même traverser une mer, vous allez voir. Et notre guide aujourd'hui, c'est Amélie Ballaire. Bonjour Amélie.
Bonjour Fanny.
Alors, je te reçois parce que tu fais une thèse depuis 2017, alors effectivement, sur le sujet du jour, sur les ambassadeurs français et anglais entre 1553 et 1625 à Arras. Et tu es sous la direction de Charles Liry de Loison, à l'Université d'Artois à Arras. Donc avec toi, on va plonger un petit peu à la fois dans la grande histoire de cette histoire voilà, diplomatique entre la France et l'Angleterre, mais aussi dans ce quotidien de ces ambassadeurs. Et peut-être, est-ce que c'était une bonne situation, ambassadeur ? On va voir ça. Alors déjà, première chose, première question, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur cette période et pourquoi sur ce sujet ?
Alors, sur cette période, c'est quelque chose qui est apparu dès la fin de ma licence, puisque j'ai eu un professeur d'histoire de la première modernité, donc du début de l'époque moderne, à Toulouse, qui était assez formidable, Thierry Wenneck-Fellen, et qui m'a orientée vers un master à Tours, au Centre d'études supérieures de la Renaissance, où j'ai fait mon M1 en histoire du XVIe siècle, et je suis partie ensuite en M2 à Paris, à la Sorbonne, pour travailler plus spécifiquement sur la France et l'Angleterre.
Déjà, tu aimes bien bouger, hein, parce que là, on voit Toulouse, Tours, Paris.
Oui, j'aime bien bouger, et justement, France-Angleterre, c'était pas mal pour faire de nombreux voyages de recherche.
Et qu'est-ce que tu souhaites apporter avec ta thèse ?
Quand on parle d'histoire diplomatique, on pense aux grandes négociations, aux incidents diplomatiques, aux tensions, à la grande histoire. Et avec ma thèse, ce que je veux, c'est plutôt plonger dans l'intime, dans l'ordinaire, vraiment dans le quotidien des ambassadeurs. Il s'agit d'aller chercher, en fait, comment est gérée une ambassade, comment se déroule la vie quotidienne, quels sont les besoins physiques, matériels des ambassadeurs, mais aussi de leur suite, de leur famille, qui viennent avec eux.
Parce que ça n'avait pas été étudié ou alors pas beaucoup ?
Alors, l'intérieur de l'ambassade au quotidien sur des choses qui ne sont pas de l'ordre de la négociation politique, très peu.
Ok, bah on va voir ça en détail avec toi. Alors, rappelle-nous sur quel espace géographique tu travailles. Alors, je l'ai un petit peu dit, mais parce que tu n'es pas sur entièrement l'Angleterre et entièrement la France quand même.
Non, en termes d'espace géographique, on est là où la cour se trouve. Donc... Londres, et puis les voyages dans le pays que peuvent faire les souverains anglais, et de la même façon, Paris, le Louvre, mais aussi Blois, les grands tours que vont faire Charles IX et Catherine de Médicis. On est partout où le pouvoir royal se trouve.
Et donc tu travailles sur environ le milieu du XVIe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle. Pourquoi est-ce que tu as choisi ces bandes temporelles particulières ?
Alors, je voulais sortir des bornes chronologiques traditionnelles françaises. 1553, c'est le début du règne de Marie Ière d'Angleterre, première fille du célèbre Henri VIII, Tudor. Et 1625, c'est la fin du règne de James Ier, plutôt connu sous le nom de Jacques Ier en France, qui est le premier des Stuarts. Donc, on part sur deux dynasties anglaises et... Ça permet, en se détachant des bornes chronologiques françaises, d'aller chercher d'autres historiographies, de les confronter, d'avoir une approche croisée. Ce qui permet aussi de couvrir plusieurs règnes de rois de France et de ne pas non plus se limiter à la période des guerres de religion qui est extrêmement prégnante et très étudiée pour le XVIe siècle en France.
Du coup, tu travailles plus sur l'Angleterre ou sur la France ?
Sur les deux.
Ah !
C'est vraiment une approche croisée et comparative de la vie des ambassadeurs anglais en France et de la vie des ambassadeurs français en Angleterre.
Et à l'époque, quelles sont les relations, déjà on va planter un peu le décor en général, quelles sont les relations entre la France et l'Angleterre ? Est-ce qu'on se bat encore ou non ?
Alors c'est tumultueux et ça dépend des règnes. Il y a des relations très fortes entre la France et l'Angleterre, puisque Paris est la seule ambassade permanente au XVIe siècle pour la diplomatie anglaise. Elle envoie des ambassadeurs ailleurs, mais en termes d'ambassade permanente, c'est-à-dire un ambassadeur qui est là tout le temps, en permanence, c'est le seul point fixe. Pour le règne de Marie Ière, on a une sorte d'ambivalence, puisque on a une reine catholique, en début de guerre de religion, c'est important, mais qui est alliée à l'Espagne, puisqu'elle est mariée à Philippe II. C'est aussi la période de la reprise par les Français de Calais, qui était le dernier bastion anglais sur le continent. Le règne suivant, qui est celui d'Élisabeth Ière, le plus long pour cette thèse, pareillement, il est ambivalent, puisqu'on a une reine qui est anglicane, qui affirme la réforme protestante anglicane en Angleterre, qui soutient les Huguenots français, souvent contre le pouvoir royal, mais qui va aussi apporter, face à l'Espagne, son soutien au pouvoir français. Donc c'est à la fois une ennemie, c'est potentiellement une agresseuse, mais on va quand même essayer d'entretenir des relations avec elle. On va jusqu'à tenter de négocier des mariages entre la reine et certains princes valois. Et le dernier règne, c'est celui de Jacques Ier, qui est donc un règne de transition, puisque c'est un Stuart, c'est le premier. Il a une relation à la France qui est particulière, puisqu'il est le fils de Marie Stuart, reine de France, avec François II, très lié à la famille de Guise, mais qui est aussi protestant, et qui est globalement un allié de la France, puisque à la fin du règne, on spoil pas grand-chose en disant ça, mais à la fin, il marie son fils Charles, futur Charles Ier, qui finira décapité, à l'une des filles d'Henri IV.
Oui, donc on voit qu'en fait, à ces époques-là, vraiment, les deux royautés sont très entremêlées, elles ont une histoire très proche.
Exactement.
Alors, donc tu travailles sur les ambassadeurs français et anglais pendant cette période. On va donc présenter un peu cette fonction particulière en détail et voir les différences à chaque fois entre les deux pays. Commençons par la base. Moi, j'aime bien, on fait les définitions. À quoi sert un ambassadeur ? Quel est son rôle ?
Alors, le rôle de l'ambassadeur au XVIe siècle, globalement, c'est un peu le même que celui du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il va représenter son souverain ou sa ville, sa cité, en fonction de son origine, dans une cour étrangère. Il y a un enjeu autour d'un maintien d'une forme de standing, de représentation pour ces ambassadeurs, puisqu'ils représentent le roi, ils sont en fait le corps du roi à l'étranger. Donc il y a une très grande importance du paraître et de la symbolique dans le rôle des ambassadeurs. Et il y a une différence fondamentale à faire, qui est qu'on a deux types d'ambassadeurs. On a les ambassadeurs ordinaires, qui sont des ambassadeurs résidents, qui sont là pour plusieurs années. Et on a des ambassadeurs dits extraordinaires, qui viennent pour des missions particulières. Une négociation de traité, la remise d'un ordre de chevalerie. En France, on change beaucoup de roi pendant cette période-là. Et systématiquement, à l'avènement d'un nouveau roi, le pouvoir anglais va remettre l'ordre de la jarretière à ce nouveau roi. Et donc, on envoie un noble à titre d'ambassadeur exceptionnel pour remettre cette décoration.
C'est une formalité diplomatique, en fait, là.
C'est une formalité diplomatique, mais qui est systématique. Et donc, on a ce type d'ambassadeur. Il y a un dernier rôle qui est très important, c'est celui de récolter de l'information. C'est très important, puisqu'il est vraiment au cœur du pouvoir étranger. Et il va développer un réseau, alors pour un ambassadeur français, des Français qui seraient installés en Angleterre. Et il va récolter des informations, des rumeurs. Il va aller chercher quelles sont les tensions qui peuvent exister entre différents personnages qui gravitent autour du souverain étranger.
Mais on n'est pas dans de l'espionnage pour autant.
Non, on n'est pas dans de l'espionnage. Il y a des espions pour ça, il y a des agents, il y a des réseaux d'espionnage qui existent. Mais l'ambassadeur, lui, en fait, il est le réceptacle de toutes ces rumeurs, de toutes ces informations, et il va ensuite les transmettre sur le continent ou à Londres, en fonction de son lieu d'exercice.
Et pour les ambassadeurs ordinaires, par qui ils sont nommés, et en général, c'est pour combien de temps ?
C'est le roi ou la reine qui, officiellement, nomme les ambassadeurs, par des lettres de créance qui seront présentées dans la cour d'accueil. Néanmoins, on a une sélection qui est faite en amont par les secrétariats d'État et c'est quelque chose qui est très différent en France et en Angleterre. En France, on va plutôt nommer la petite noblesse que l'on veut favoriser ou qui a des liens avec certains secrétaires d'État ou certains courtisans. En Angleterre, on a très tôt une forme de professionnalisation, c'est-à-dire qu'on va lister, ces listes, elles existent, elles sont dans les archives, on va lister des noms de personnages qui seraient aptes à remplir les fonctions d'ambassadeur.
Donc qui ont des compétences, qui ont prouvé par leurs actes, pas juste par leur naissance comme pour en France, qui ont prouvé que oui, ils sont capables de faire ce rôle-là.
Exactement. Pour les ambassadeurs ordinaires en Angleterre, on a très peu, voire quasiment pas, d'ambassadeurs qui sont issus de la noblesse.
On a déjà là une énorme différence dans la sociologie des ambassadeurs.
Exactement.
Et donc ça veut dire quand même qu'ils sont nommés ainsi donc, au bon vouloir des rois, et donc ça veut dire qu'ils peuvent être révoqués facilement. En général, un ambassadeur, ça peut être en place pendant combien de temps ?
Alors, c'est plusieurs années, sauf pour ceux qui soit commettent des erreurs, mais ça arrive pas vraiment et qui vont être rappelés, soit certains qui vont mourir dès le début de leur ambassade. En général, on est sur l'ordre de 3-4 ans pour une mission permanente. On a des ambassadeurs qui vont rester plus longtemps, 5-6-7 ans. On en a d'autres qui vont multiplier en fait les missions.
Parce que 3-4 ans, c'est à peine le temps qu'il faut pour vraiment s'installer quelque part et tisser des liens. C'est plutôt court. Ou est-ce que en fait, finalement, peu importe l'ambassadeur en lui-même, en fait, c'est l'ambassade qui compte et les liens sont déjà tissés ?
C'est pas si court que ça. Ça l'est à notre échelle, peut-être. Mais pour le XVIe siècle, c'est pas si court que ça. Il faut penser que pour un certain nombre d'entre eux, côté anglais en tout cas, ce sont des personnages qui ont déjà voyagé, pour certains qui ont déjà eu des fonctions dans des ambassades. Paris est un peu une sorte d'école des ambassadeurs, puisque un certain nombre de personnages vont avoir des fonctions de secrétaire d'ambassade, vont faire leurs preuves, vont acquérir en fait une connaissance de la diplomatie et vont ensuite être nommés ambassadeurs à Paris. Donc 3 ans, ou 4 ans, c'est pas si court que ça. C'est même, du point de vue des ambassadeurs, assez long.
D'accord. Et alors, forcément, on l'a dit, quand on pense ambassadeur, on pense aussi ben, rôle lors des négociations et tout ça. Donc, est-ce que les ambassadeurs peuvent vraiment avoir de l'influence lors des négociations officielles, que ce soit pour des mariages ou pour un traité particulier ?
Si on se place du seul point de vue politique, ils ont une légère marge de manœuvre lors des négociations, mais ils ont des lettres de mission, des instructions qui sont quand même assez détaillées. On va avoir des moments où l'ambassadeur va user de son rôle pour obtenir plus ou essayer d'obtenir plus que ce qui est demandé. Je pense par exemple à la période où Henri IV monte sur le trône, une véritable guerre civile en France, il doit reconquérir province après province, ville après ville, et il va demander l'aide de la reine d'Angleterre, qui va lui fournir de l'argent, des hommes aussi, qui vont venir se battre en France. Et le rôle de l'ambassadeur ordinaire, c'est de toujours demander plus d'argent, plus d'hommes, mais aussi de convaincre la reine que non, ça n'a pas encore été remboursé, ça va l'être bientôt, un jour peut-être, et de toujours repousser les délais. Et pour ça, il utilise à la fois toute une rhétorique de l'amitié, de la lutte commune contre les catholiques extrémistes de la Ligue, mais il va aussi utiliser sa personnalité, son bagou aussi, pour pouvoir obtenir plus ou obtenir des délais et utiliser ses relations et, les amitiés qu'il a pu tisser avec certains ministres ou certains courtisans pour convaincre la reine d'accéder au désir de son roi. Donc ils ont une influence, pas sur les grandes négociations, mais plutôt sur les affaires du quotidien, ou vraiment sur des détails.
Donc ces ambassadeurs, ils sont quand même des pions, une forme de continuité de la main du roi, si j'ai bien compris ?
C'est ça. De toute façon, ils représentent le roi à l'étranger, donc ils sont quand même soumis à un certain nombre. Ils sont quand même soumis à un certain nombre d'ordres ou de consignes que leur transmettent soit le roi, soit les ministres du roi ou de la reine. Et ils ont vraiment, enfin, ils doivent rendre des comptes. Ils écrivent des dépêches toutes les semaines pour rendre compte de leur action, rendre compte des informations qu'ils ont pu collecter.
C'est des newsletters déjà de l'époque. Hop, alors cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait ?
C'est exactement ça. Et puis parfois, ben, ils se font littéralement engueuler par les ministres qui leur disent « Bah non, là, c'est n'importe quoi, rectifiez le tir ».
Est-ce que tu as peut-être des anecdotes particulières d'actions d'ambassadeurs pendant cette période ? qui se sont un peu démarqués?
Il y a des anecdotes, mais qui relèvent plutôt de la vie quotidienne des ambassadeurs. On a des incidents diplomatiques qui ternissent un petit peu les relations entre les deux pays. On a Nicholas Throckmorton qui, à un moment, est arrêté par le pouvoir...
Lui, il est anglais ou français?
Il est anglais et il se fait arrêter par le pouvoir français sur ordre de Catherine de Médicis. Et il faut plusieurs mois pour qu'il soit libéré.
Ah oui, quand même.
Oui, et c'était un personnage qui était peu aimé à la cour de France.
On est peut-être sur une crise politique, en fait, d'arrêter un ambassadeur ou pas?
Alors, on est sur une crise politique, mais parce qu'on est aussi sur une période de très forte tension en France, et les ambassadeurs anglais sont accusés de favoriser les Huguenots français, et donc on veut éliminer une menace ou une aide potentielle.
Est-ce qu'on a peut-être des noms d'ambassadeurs anglais ou français qui sont connus, qui sont passés à la postérité d'une façon ou d'une autre?
Alors, d'ambassadeurs français pour cette période et ses missions en Angleterre, pas tellement. On a les frères de Noailles qui sont un cas particulier, puisque ce sont trois frères qui officient plus ou moins à la même période et qui vont être tous les trois sur des missions d'ambassade à Londres, à Rome, à Venise et à Constantinople.
Donc on est sur une fratrie d'ambassadeurs?
On est sur une fratrie qui en plus échange beaucoup entre elles.
Il faudrait un film ou une série là-dessus. Déjà, c'est génial, ça.
C'est ça. Et donc, qui échangent aussi des informations sur les stratégies à adopter. Donc, il y a les stratégies royales de politique internationale, mais il y a aussi des stratégies familiales. Tu vois, qui peut tirer bénéfice de quelles informations. Et puis, on a d'autres ambassadeurs qui vont se démarquer plutôt sur le plan intérieur. En Angleterre, on a Francis Walsingham, qui va devenir un personnage central dans l'état d'Elisabeth Ier, puisqu'il est ambassadeur à Paris pendant la Saint-Barthélemy. Il en réchappe. Il est encore jeune à l'époque, mais au cours de son ambassade et de plusieurs autres missions, il va créer un véritable réseau d'espions. Et de retour en Angleterre, il développe encore ce réseau et il devient le maître espion à travers l'Europe de l'Angleterre.
Donc on voit qu'être ambassadeur peut servir de tremplin vers des positions plus hautes, plus élevées.
Exactement. On a aussi des ambassadeurs, là encore anglais, qui vont tirer des bénéfices à la suite de leur ambassade, qui vont devenir les secrétaires de l'ordre de la Jarretière, par exemple, ou qui vont être anoblis à la suite de leurs ambassades.
Oui, donc c'est vraiment, on peut le dire, une très bonne situation d'être ambassadeur.
Pour l'Angleterre, ça l'est. Pour la France, ça l'est un peu moins.
Pourquoi?
Parce que les ambassades coûtent cher. Et que pour les ambassadeurs français, partir en ambassade, c'est servir sa famille. En termes de reconnaissance, c'est servir le roi, servir sa famille. Et on va piocher dans la fortune personnelle.
Ah, on se fait même pas financer par le roi?
En partie, mais côté français, la situation politique fait que les fonds arrivent de manière très irrégulière. Et on est sur un état qui est en permanence ruiné, quand même. Alors qu'en Angleterre, on a le corps des ambassadeurs qui commence à se constituer véritablement, est un peu au centre des préoccupations en Angleterre. Et donc, on va avoir des pensions qui sont versées de manière très régulière. Alors, les ambassadeurs se plaignent tout le temps du manque d'argent. Mais pour le côté anglais, on va avoir des pensions qui sont versées tous les 3 mois, avec une régularité quand même assez exceptionnelle. Et puis, à leur retour de mission, ils vont faire la liste des frais exceptionnels qu'ils ont pu engager et ils vont être en grande partie remboursés. On a des comptes de l'échiquier qui montrent ces remboursements.
Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers les ambassadeurs, tu peux vraiment avoir une image de l'époque et ça permet vraiment d'apprendre des choses sur cette période historique déjà à travers les ambassadeurs.
Oui, ça permet d'apprendre... Au-delà des négociations et de l'aspect purement politique, le fonctionnement de l'administration, en partie, mais une partie du fonctionnement de l'administration. Et puis, qu'est-ce que c'est que de vivre à l'étranger? Qu'est-ce que c'est que de déménager pour une période dans un pays dont on ne parle pas forcément la langue? Qu'est-ce que c'est que déménager avec sa famille? Comment est-ce qu'on gère la vie à l'étranger, avec des domestiques, dans un pays dont on n'est pas forcément de la religion? Parce que pour la France et l'Angleterre, c'est quand même assez particulier. Qu'est-ce que c'est que de mourir à l'étranger? Comment on fait rapatrier le corps d'un ambassadeur qui meurt à l'étranger? Qu'est-ce que c'est que d'avoir des enfants à l'étranger? Parce qu'on emmène sa famille aussi. Donc il y a toutes ces questions qui se posent.
Son Excellence l'ambassadeur de France et Monseigneur Bonnivet.
Bonjour messieurs, bienvenue, Votre Excellence. Ce qui s'est passé à Urbino, ce meurtre brutal de notre ambassadeur, est un événement des plus fâcheux, et ceci tout particulièrement pour moi. Votre Excellence connaît bien mes sentiments envers votre pays. J'ai œuvré longtemps et avec une grande insistance en faveur des intérêts français. Mais comment expliquer ceci ? L'assassinat de l'oncle de mon roi.
Sincèrement, cela n'a pas été fait sur l'ordre de mon maître. Et ceux qui ont commis ce crime ont déjà été châtiés.
Non, 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 vous devez comprendre que nous avons largement dépassé ce stade. Le roi Henri est un homme jeune. Il a un grand appétit pour la guerre et, en cette circonstance, il ne sera pas facile à apaiser.
Alors, si vous y tenez, faisons-nous la guerre ?
Oh, sauf votre respect, vous ne pensez pas cela.
Alors justement, rentrons en détail dans ce quotidien des ambassadeurs. On l'a dit donc déjà, ils viennent de milieux plutôt nobles, de noblesse en France, alors qu'en Angleterre, c'est pas forcément le cas et c'est plutôt les compétences qui prévaut. Mais comment est-ce que ces ambassadeurs gèrent leurs ambassades ?
Un peu comme une maison ordinaire. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leur suite, ils viennent avec leurs domestiques, ils viennent avec leurs familles proches, la plupart du temps, leurs femmes, leurs enfants, leurs jeunes enfants. La grande différence, c'est qu'il y a ce besoin de représentation permanente, puisque, je le rappelle, on représente quand même le roi ou la reine, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce sont des personnages qui sont constamment dans le paraître, qui doivent faire attention à ce qu'ils portent, à la façon dont ils agissent, à la préséance lors des cérémonies ou même lors des fêtes religieuses. Et on a peu de comptes d'ambassade. Sur la gestion même quotidienne, on a peu de comptes. Ce que l'on peut en déduire, ça va être à partir de demandes de remboursement ou de listes d'achats, parfois. On a le nombre de les tissus qui peuvent être achetés. On a ces aspects-là. Les ambassadeurs se plaignent très régulièrement du coût de leurs ambassades. Je l'ai dit, c'est vrai pour le côté français, ça l'est aussi pour le côté anglais, même s'ils ont plus de moyens. Mais il y a aussi le fait qu'ils sont obligés de recevoir régulièrement. Recevoir des ministres, recevoir des courtisans royaux pour augmenter ou pour alimenter leur réseau. Donc ils gèrent ça en fait comme une maison dans laquelle on recevrait régulièrement des invités de marque.
Ouais, comme les gens du XVIe siècle, plutôt aisés à cette époque-là.
Exactement.
Et est-ce qu'on connaît leur lieu de résidence ? Parce que j'imagine pour les ambassadeurs ordinaires, est-ce que c'est tout le temps le même endroit ? Genre l'ambassade d'Angleterre en France est toujours au même endroit ? Ou est-ce que ça change ?
Non, on n'a pas d'ambassade au sens contemporain du terme. Les ambassadeurs vont louer des maisons en fonction des quartiers, rarement loin du palais royal, du Louvre en l'occurrence. Ils suivent la cour lors des déplacements, et dans ces cas-là, ils sont logés au même titre que les autres courtisans, mais ils ont vraiment leur maison à eux, dans laquelle ils reçoivent, ils s'installent, généralement des hôtels particuliers qu'ils vont louer, voire acheter. Mais ça dépend, enfin chaque ambassadeur a son propre lieu.
Pour Paris, est-ce que tu as pu relever des adresses ou pas ?
Alors, il y en a quelques-unes, mais ce sont des bâtiments qui ont été détruits.
Ah !
Il existe un hôtel particulier à Paris qui servait d'ambassade pour les Provinces Unies. Mais pour les ambassadeurs anglais à Paris, il y a des adresses, il y a des quartiers, mais qui aujourd'hui n'existent plus. Ouais. On est le long de la Seine, on est autour de Saint-Méry, proche du Louvre.
Oui, donc on voit là que Paris a beaucoup changé depuis le XVIe siècle pour ça.
Tout à fait.
Et pour Londres, est-ce que tu as des adresses aussi ou là, pareil, ça a trop changé ?
Alors, j'en ai une pour Londres, mais c'est quelque chose qui n'existe... Enfin, c'est un lieu qui n'existe plus, qui a été détruit au XIXe siècle.
Mais alors, tu as dit que ces ambassadeurs prenaient avec eux leur famille. Mais pourtant, on l'a dit, ils sont nommés que 3-4 ans. Pourquoi est-ce qu'ils s'embêtent à ramener toute leur famille ? Pourquoi est-ce qu'ils ne les laissent pas dans leur pays ? Ils disent, bon, allez, hop, dans 3 ans sans se voir, ça passe.
Alors, on l'a dit, 3-4 ans pour un ambassadeur, c'est long.
Oui.
Et puis, il a besoin de compagnie, cet ambassadeur. Il va pas. Il était à la cour. Déjà, partir à l'étranger, c'est un énorme changement. Puisque, je vais pas refaire l'adage de loin des yeux, loin du cœur. Mais plus vous êtes éloigné de la cour, moins vous existez aux yeux de votre souverain. Même si vous lui écrivez toutes les semaines des nouvelles de l'étranger. Vous êtes moins sujet aux promotions, vous êtes moins sujet à attirer son attention et à récupérer des terres, des titres, etc. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a simplement le fait aussi que pour gérer une maison, à cette époque-là, on a certes des intendants, on a un secrétaire d'ambassade, on a des domestiques, mais ils ont juste aussi besoin d'une vie de famille. Donc quand il est possible de gérer son domaine, de faire gérer son domaine en Angleterre ou en France, par quelqu'un d'autre, on emmène sa famille avec soi. Et on a des cas donc d'ambassadeurs régulièrement qui viennent avec leurs femmes, avec leurs enfants. On a des enfants qui naissent en ambassade, qui sont aussi des objets politiques. Puisque l'enfant d'un ambassadeur qui va naître en ambassade va avoir pour parrain ou pour marraine le souverain ou des ministres duquel l'ambassadeur est proche.
Ah oui, donc ça vaut le coup de s'organiser à ce niveau-là.
Alors, ça vaut le coup de s'organiser si on veut des cadeaux. Mais il y a aussi une question plus théologique, c'est que si vous êtes ambassadeur français catholique et que la marraine de votre enfant est la reine d'Angleterre anglicane...
Ah, dans ce sens-là, oui.
Alors, c'est une sorte de marrainage de pure forme, puisque on est la marraine du représentant du roi de France. Mais il y a cet aspect-là quand même qui n'est pas négligeable. Mais ça fait très bien aussi pour une famille de la noblesse française d'avoir comme marraine la reine d'Angleterre.
Et donc, à ce moment-là, est-ce que la femme de l'ambassadeur a un rôle au-delà de tenir la maison ?
Elle a un rôle. Elle a un rôle parce qu'elle a aussi un rôle social qui est d'organiser aussi des réceptions.
Les fameuses soirées de l'ambassadeur, c'est ça ?
Sans chocolat. Mais alors, on mange beaucoup chez les ambassadeurs. C'est une de leurs activités préférées. Mais les femmes d'ambassadeurs, elles vont avoir ce rôle-là à la fois de s'insérer dans la société locale, dans la cour pour entrer en contact. Elles sont aussi des éléments de la stratégie de l'ambassadeur pour récolter des informations. Et puis, elles vont organiser ces fameuses soirées pour des ministres, pour des courtisans, et qui vont faciliter les relations de l'ambassadeur dans ce pays-là.
Est-ce qu'elles peuvent jouer elles-mêmes un rôle d'espionnage ou pas, parfois ?
Alors, j'ai pas de cas de femmes qui vont jouer ce rôle d'espionnage. Néanmoins, elles peuvent avoir une certaine proximité avec la reine. J'ai un cas où Élisabeth d'Angleterre organise un dîner en sa présence, à destination des femmes d'ambassadeurs, afin de les rencontrer. On ne sait pas ce qui s'y est dit, j'ai pas de compte-rendu de quelque nature que ce soit de ce dîner, mais il a existé. Donc, on peut supposer qu'elle a aussi un rôle qui n'est pas forcément politique, mais qui va de facilitatrice de certaines relations aussi.
Oui, un rôle social, quoi.
Exactement.
Et donc, dans tes recherches, qu'est-ce que tu as pu relever comme activité du quotidien pour un ambassadeur ?
Alors, on a un quotidien qui est finalement assez monotone, puisqu'il alterne entre se montrer en cours, recevoir, et puis écrire, tout ce qu'il a... les ambassadeurs passent des heures par semaine à écrire. En moyenne, c'est une dépêche au secrétariat d'État, puis au roi aussi, puisqu'il faut doubler par semaine, plus en période d'activité.
Attends, c'est quoi la différence entre le secrétariat d'État et le souverain ?
Le secrétaire d'État, c'est un ministre.
Ah, d'accord, ok. Ouais.
C'est un ministre qui va réceptionner et qui va ensuite transmettre les informations au souverain.
Donc ça veut dire que c'est le ministre qui synthétise ce qu'a écrit l'ambassadeur et il le donne au souverain, ou est-ce que aussi l'ambassadeur écrit directement au souverain ?
Il écrit aussi directement au souverain.
Donc il n'écrit pas les mêmes choses aussi, j'imagine ?
Alors, il y a des choses qui se recoupent et puis parfois, il y a des éléments, supplémentaires, notamment des informations sur des tensions entre personnages de la cour ou autres, qui ne vont pas directement intéresser le souverain. Mais on va aussi avoir des ambassadeurs, notamment français, pendant la régence de Catherine de Médicis, qui vont tripler. Ils vont envoyer au secrétaire d'État, ils vont envoyer au roi, et ils vont envoyer à Catherine de Médicis.
Ah.
Et à chaque fois, on a un niveau d'information qui est différent.
Je l'adore, Catherine de Médicis, elle est super. Non, mais là, on voit qu'effectivement, quand on dit « Oui, Catherine de Médicis, elle n'a pas un si grand rôle que ça », rien que pas. Ce que tu nous racontes, on voit déjà qu'elle a une vraie importance.
Il y a un très bon travail de recherche de Mathieu Gélard, justement, sur la correspondance de Catherine de Médicis et sur son lien permanent avec les ambassadeurs, qui montre justement qu'elle est au centre du réseau diplomatique, notamment pour les périodes de régence, mais pas que. Au quotidien, il y a aussi une autre activité que les ambassadeurs adore et qui est consécutive de l'activité de cour, en fait, c'est d'aller chasser, d'aller jouer avec des ministres, des courtisans. On ne récolte jamais autant d'informations que quand les gens sont détendus et vous parlent. Et c'est aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais le rôle de la nourriture est très important. Dans les dépêches des ambassadeurs, ils passent leur temps à raconter les dîners, les soupers qu'ils ont eus, en détaillant ce qu'ils ont mangé, ce qui est intéressant. Mais la fonction de ces repas, elle est sociale et elle est politique. C'est-à-dire que quand on boit, et parfois on boit trop, quand on mange régulièrement avec les gens, on se confie davantage. Ou on est plus enclin à accepter leurs demandes et à dire « bon, je transmettrai votre demande à la reine ou au roi et je l'appuierai ». Et donc, il y a un véritable rôle d'influence dans ces dîners ou dans ces activités-là.
Non, ça marche un peu toujours comme ça aujourd'hui, hein, de toute façon. Quand on voit aujourd'hui les ministres qui se font inviter à dîner à tel endroit ou tout, en fait, c'est pareil aujourd'hui. Hein.
Exactement. On a aussi des ambassadeurs qui, dans leur dépêche, disent qu'ils ont trop bu ce soir-là. Hein.
Ah, en mode « désolé, je crois que j'ai un peu merdé » ou...
Non, en disant « j'ai passé la soirée avec un tel et le lendemain, j'ai eu mal à la tête d'avoir trop trinqué à la santé de la reine ».
Est-ce qu'on a des scandales ou pas avec ces ambassadeurs? Parce que justement, comme tu le dis, ils ont un quotidien qui peut être un peu festif. Parfois, ça peut conduire à des excès?
Non, pas de cet ordre-là. On a d'autres scandales, d'autres incidents parce qu'ils vont demander des passe-droits, notamment en période de carême, par exemple, mais qui relèvent plus en fait de la pratique religieuse, des différences culturelles ou religieuses sur ces temps-là.
Et est-ce que dans leurs lettres, ils parlent de ces différences religieuses? Est-ce qu'ils constatent des choses? Est-ce qu'ils font des remarques?
Sur les différences religieuses, non. Plutôt sur le traitement des pratiquants, par exemple le traitement des catholiques en Angleterre, ou les injustices que peuvent subir certains Anglais parce qu'anglicans, notamment des marchands, quand ils viennent en France. Mais on n'est pas sur les différences théologiques à proprement parler.
Et est-ce qu'on sait comment est-ce que ces ambassadeurs étaient perçus dans le pays donc, où ils étaient ambassadeurs? Par exemple, comment les Anglais percevaient l'ambassadeur français et comment les Français percevaient l'ambassadeur anglais?
Alors, de la part des populations, il n'y a pas vraiment de... Ce sont des gens de cour, donc il n'y a pas de...
Non, au sein de la cour elle-même?
Pas vraiment. En fait, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des ambassadeurs qui sont très appréciés. Et puis, il y en a d'autres qui vont être détestés. Et ça va jouer sur leur capacité aussi à obtenir ce que... à réaliser leur mission.
Et donc, Amélie, raconte-nous sur quelles archives est-ce que tu travailles pour en savoir plus sur les ambassadeurs? On l'a compris, déjà, beaucoup de correspondances, c'est ça?
Oui, c'est la majeure partie de... Enfin, la quasi-totalité, en fait, de mes archives, c'est de la correspondance. J'ai quelques journaux de voyage, donc qui ont été écrits soit au cours, soit a posteriori par des ambassadeurs et qui relatent l'ensemble de leur ambassade. Et puis, de manière assez éparse, quelques comptes, plutôt côté anglais, quelques comptes d'ambassade ou quelques demandes de remboursement, et ce qui permet de rentrer dans le détail de certaines pratiques du quotidien.
Et donc, comment ça se passe ton travail aux archives? Est-ce que tu es tout le temps entre la France et l'Angleterre? Est-ce que tu en as qui ont été numérisées d'archives?
Alors, majoritairement, mes archives, côté français, elles sont aux archives diplomatiques et à la BNF. Pour la BNF, il y a beaucoup de manuscrits qui ont été numérisés. Merci Gallica. Côté anglais, il y a donc les archives nationales et la British Library. Là aussi, on a la chance pour le côté anglais d'avoir une numérisation massive et une mise en ligne massive de ce qu'on appelle les state papers, c'est-à-dire les papiers d'État officiels, notamment toute la partie diplomatique qui a été extrêmement bien classifiée par pays, par période et numérisée de manière remarquable, qui est accessible depuis la France. Et donc, qui me permet de ne pas passer mon temps en Angleterre, même si on n'est jamais contre un voyage à Londres.
Tu y es allée quand même?
Oui, j'y suis allée parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas numérisées, notamment les comptes de l'échiquier, c'est-à-dire les comptes du trésor public. Pour résumer, pareil, un certain nombre de manuscrits de la British Library qui n'étaient pas numérisés, sur lesquels il a fallu dépouiller.
Et donc, ça veut dire que ces archives ont été conservées? C'est intéressant de voir que là, au XVIe siècle, enfin, vraiment, tous ces papiers, on pourrait se dire ça pourrait être... disparu ou quoi? Non, on a un vrai effort de conservation de toute cette correspondance au XVIe siècle.
On a un effort de conservation qui date du XVIe siècle, qui date en fait du secrétariat de William Cecil, qui fait des copies de toutes les lettres qui
William
sont...
Cecil, c'est qui?
Alors, William Cecil, c'est le secrétaire d'État, le principal conseiller d'Élisabeth Ière. Et il va faire des copies de toutes les lettres qui sont envoyées, de toutes les lettres qui sont reçues. Une partie aussi des lettres qui sont interceptées, qui sont recopiées. Il va récolter, classer et conserver toute une partie des codes de chiffrage et de déchiffrage des dépêches diplomatiques. Et tout ce travail-là, qui va ensuite être poursuivi par son fils, qui va reprendre son poste, va en fait servir de base. Et on a en fait à ce moment-là la mise en place d'une administration efficace du point de vue diplomatique.
Donc tu travailles à la fois sur des archives en français et en anglais?
Oui.
C'est pas trop compliqué, ça va ?
Alors, si on met de côté la paléographie, qui est toujours pour le XVIe siècle...
Donc pour déchiffrer les manuscrits, là où on a... XVIe siècle, c'est beaucoup de boucles et tout ça.
Voilà, beaucoup d'abréviations aussi. Si on met de côté cet aspect-là, où finalement on finit par s'habituer, le plus difficile, ça a été pour l'anglais de partir du principe qu'il fallait lire à voix haute, en fait, pour pouvoir déchiffrer. On écrit comme on parle. Et donc, outre les modifications entre le XVIe et le XXe, XXIe siècle de l'anglais, on a une écriture qui est finalement très sonore. Et donc, il faut s'y habituer. Et,
ça veut dire que ça se manifeste comment ?
On a des lettres qui sont quasiment écrites en phonétique. Et donc, il faut vraiment les lire à voix haute pour retrouver des proximités avec certains mots actuels et pouvoir deviner. C'est le cas... notamment pour des agents qui n'ont pas fait de très longues études ou qui n'ont pas forcément été à l'université. C'est le cas, en fait, d'un certain nombre de secrétaires d'ambassade quand ils écrivent. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même progressivement une fixation de la langue, comme pour le français.
Alors qu'à l'opposé, le français au XVIe siècle est déjà beaucoup plus posé ?
Pas forcément, mais je pense que c'est plus facile pour moi de lire dans un français, qui, même s'il est phonétique, que dans un anglais phonétique.
Et à part ce problème de langue, quelles sont les autres difficultés que tu rencontres ?
Alors, il y a eu la question du financement, mais j'ai eu la chance d'avoir une école doctorale qui a participé aux déplacements pour des colloques ou des séjours de recherche. Ensuite, la thèse s'est bien passée, même si ça a été un peu compliqué au moment de la période du Covid pour pouvoir se déplacer en Chine.
Tu n'es pas la première à dire ça, effectivement.
Mais se déplacer en Angleterre au moment du Covid, c'était... Enfin, et après, hein, ça a été compliqué. Bon, dans la foulée, j'ai eu un enfant, ce qui réduit mon temps de recherche et mon temps de cerveau disponible.
Forcément, oui.
Donc, j'ai pas avancé aussi vite que je voulais, mais on en voit le bout.
Et est-ce que le Brexit a eu un effet sur tes recherches ou ça change rien, en fait ?
Non. Non, non, non. Il n'y a pas eu de... Les files sont plus longues pour entrer dans l'Eurostar.
Ah, il y a les plus de monde, tu veux dire.
Non, les contrôles sont plus longs,
ah, ouais.
Mais sinon, il n'y a pas eu de...
Et donc là, on l'a dit, en ce moment, tu es en train de rédiger ta thèse. Tu en es à quelle partie en ce moment, tiens, pour donner un petit aperçu ?
En ce moment, je travaille sur... Donc, je rédige deux chapitres. Un sur les journaux de voyage, sur la façon dont les ambassadeurs perçoivent leur arrivée. Comment est-ce qu'ils décrivent leur arrivée dans la ville, ce qu'ils voient, les premières personnes qu'ils rencontrent. Donc vraiment, leurs premières impressions de prise de poste. Et une autre sur la présence des femmes et leur rôle.
Et donc là, tu vas bientôt soutenir ta thèse au moment où on enregistre à peu près d'ici un an, c'est ça, environ ?
Un peu moins d'un an.
Et donc, est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir à l'après-thèse ?
Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire ma thèse en étant la plupart du temps dans l'éducation nationale comme enseignante, donc d'avoir du temps. Là, j'ai changé de ministère, je ne vois pas d'avenir universitaire. De toute façon, aujourd'hui, l'état de l'université fait que c'est compliqué. Donc, pour l'instant, non, j'ai pas d'après. Je sais pas si je vais continuer la recherche.
Donc, tu as déjà commencé à t'orienter vers autre chose que la recherche pour travailler ensuite.
Oui, c'était déjà le cas quand j'étais dans l'enseignement. Puis là, je suis totalement sortie de l'enseignement, plus ou moins totalement sortie du système universitaire. Il y a peu de chances que j'y retourne, vu son état actuel. Peut-être des recherches à titre individuel, recherches libres, mais pas institutionnelles, non.
Pour finir, Amélie, une question un petit peu rituelle d'un patient moderniste. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait peut-être faire des recherches sur le XVIe siècle, dans ce contexte entre la France et l'Angleterre, éventuellement peut-être des conseils de sujets qui mériteraient d'être un peu plus étudiés ?
Alors, un conseil général, c'est d'abord d'arriver à circonscrire son sujet le mieux possible pour ne pas se disperser. Sur le XVIe siècle et sur les relations franco-anglaises, il y a tout un pan qui mérite d'être développé, qui est celui des relations interpersonnelles. Comment est-ce que les Français perçoivent les Anglais qui sont sur leur sol et inversement, et pas au niveau des cours royales, vraiment sortir de... même si c'est les sujets sur lesquels on a le plus de sources, mais de rentrer dans une approche peut-être plus interdisciplinaire avec la littérature, avec les procès, etc. Mais d'aller voir sur les relations entre les différentes communautés.
Désormais, chers auteurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les ambassadeurs, à quoi servait un ambassadeur au XVIe siècle. Donc merci beaucoup Amélie, et bonne continuation pour la fin de ta thèse.
Merci de m'avoir accueillie dans ton podcast, Stéphanie.
Bah avec grand plaisir. Auditeurs, auditrices, si l'histoire anglaise vous intéresse à l'époque moderne, alors j'ai fait deux épisodes qui pourraient vous intéresser. J'avais fait l'épisode 6, qui était sorti en juillet 2019, il y a fort fort longtemps. Avec Camille Paulet, on avait parlé de la noblesse au XVIIe siècle. Et donc, on a parlé de l'Angleterre un petit peu dedans. Et aussi, si... alors là, on est aussi sur l'histoire du XVIe siècle en Angleterre. Vous pouvez écouter l'épisode 38 sur Thomas Cromwell, qui a joué un rôle important, notamment sous le règne d'Henri VIII d'Angleterre. Et si jamais les relations aussi entre la France et l'Angleterre vous intéresseraient pour le Moyen-Âge, eh bien, sachez que dans Passion médiéviste, qui est mon autre podcast, j'ai fait dans l'épisode 46 un épisode sur comment les Anglais voyaient la langue française et les Français au cœur de la guerre de 100 ans. Donc là, c'est vraiment en fait quelqu'un qui a étudié un manuel de conversation en français rédigé par des Anglais à destination d'un public anglais. Donc allez voir ça. Donc on est de plusieurs siècles avant ce dont on a parlé aujourd'hui, mais peut-être que ça vous intéressera. Donc tout ça est sur mon site passionmediaviste.fr. Vous verrez même, si vous allez sur la page d'accueil, vous verrez qu'il y a des petits pictogrammes comme ça où je conseille des thématiques, des podcasts. Et bien si vous allez sur le pictogramme Angleterre, ben, vous retrouvez tous les épisodes que j'ai qui ont parlé de l'Angleterre un moment ou un autre. Et donc vous pouvez comme ça parcourir les épisodes de Passion moderniste, Passion médiéviste et aussi mon autre podcast. Alors on n'y parle pas d'Angleterre je crois pour l'instant, peut-être un jour bientôt, Passion antiquité. Donc là on est plutôt vraiment sur l'antiquité très 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 large, de moins de 3300 jusqu'à vraiment on est 5e siècle de notre ère, donc une très longue période. Allez voir tout ça. Et dans le prochain épisode de ce podcast, alors dans le prochain épisode du format régulier, on parlera d'un grand fleuve français, on parlera du Rhône, oui. Mais aussi, entre l'épisode que vous avez écouté aujourd'hui et l'épisode sur le Rhône, il y aura un autre épisode qui est un format très 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 particulier, qui était jusqu'à présent sur Passion médiéviste et qui va passer sur Passion moderniste. Un certain format où on parle de l'histoire des rois de France. Voilà, je dis juste ça et à très bientôt, salut!
D'essence, un enfant meurt en silence sur le trottoir de Bogota. On ne s'arrête pas, déchiquetés aux champs de mine, décimés aux premières lignes. Or les enfants de la guerre pour les idées de leur père. Balle à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et gravataires, se partagent l'unité.